Radio Prague, les informations.
Le ministère de l'Éducation pourrait faire face à une suspension des fonds européens. Le président Václav Klaus entre dans sa dernière année de mandat. Et puis, sondage, une majorité de Tchèques sont opposés à la restitution des biens de l'Église. Le ministère de l'Éducation pourrait faire face à une suspension des fonds européens. Un audit de la Commission européenne a en effet suggéré la suspension de toute dotation en raison de la découverte d'irrégularités dans le cadre d'appels d'offres publics lancés par le ministère. Une enquête doit déterminer si fraude il y a. Le ministère peut puiser jusqu'à 53 milliards de couronnes de ces fonds. Les services du ministère seraient à pied d'œuvre pour résoudre le problème et éviter un gel des dotations. Le président tchèque Václav Klaus entre dans sa dernière année de mandat en 2012. Son deuxième mandat présidentiel expirera officiellement le 7 mars 2013. Âgé de 70 ans, Václav Klaus est en politique depuis la révolution de velours en 1989. Il a déjà fait savoir que la fin de sa présidence ne signifierait pas qu'il se retirerait de la vie publique. Sa dernière année en tant que président devrait être marquée par l'adoption d'un scrutin présidentiel direct. Celle-ci a récemment été approuvée par la Chambre basse du Parlement et doit encore être soutenue par le Sénat. L'élection présidentielle pourrait alors se dérouler entre le 6 janvier et le 6 février 2013. Monsieur Klaus a été élu président pour la première fois en 2003, puis réélu en 2008. Un nouveau sondage de l'agence STEM laisse entendre que 69% des Tchèques estiment que l'État ne devrait pas restituer les biens de l'Église confisqués par le pouvoir communiste. Le gouvernement travaille à l'heure actuelle sur une loi allant dans ce sens, mais qui doit encore être approuvée par les ministres du plus petit parti de la coalition Affaires publiques. Jusqu'à présent, le gouvernement a accepté de débourser la somme de 59 milliards de couronnes au bénéfice des églises et se répartit sur une période de 30 ans. Une somme qui, combinée à l'inflation, pourrait atteindre 96 milliards de couronnes. Les églises sont également censées recouvrir 56% de leurs biens confisqués et d'ici à 2030, elles devraient également progressivement se diriger vers une fin des subventions de l'État. Les services d'entretien de la ville de Prague ont annoncé qu'ils retireraient les milliers de bougies qui entourent la statue de Saint Venceslas au centre de Prague en raison des célébrations du Nouvel An. Fleurs et bougies s'accumulent sur la célèbre place où les gens spontanément affluent pour rendre hommage au président dramaturge Václav Havel. Les autorités pragoises justifient cette décision, arguant que ce lieu de recueillement pourrait être endommagé pendant les fêtes de la Saint-Sylvestre. Et puis à noter encore qu'en hommage à la personnalité de l'ancien président tchécoslovaque et tchèque récemment décédé, Michel Delaunay, député de la Gironde, propose au président de la communauté urbaine de Bordeaux et au maire de Bordeaux que le pont Bacalan-Bastide porte le nom de Václav Havel après le décès de l'ancien dissident. Gdansk, en Pologne, symbole de la résistance anticommuniste, a également décidé de renommer une rue de la ville au nom de Václav Havel. On finit par un mot de météo vendredi, jour de fête des Davids. Le temps en République tchèque sera couvert et nuageux. Les températures maximales s'échelonneront de 1 à 5 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, merci Anna pour les infos. Faut-il donner le nom de Václav Havel à l'aéroport de Prague? C'est la question dont tout le monde parle en ce moment en République tchèque. On en parlera en début d'émission. Ce sera juste avant un entretien avec le réalisateur du seul film franco-tchécoslovaque réalisé dans les années 80. Et puis la promenade touristique, ce sera cette semaine avec Jaroslava Gisubelova à Panenski Tinets. Voilà pour le sommaire, je vous souhaite une très agréable écoute. La société publique qui gère l'aéroport de Prague a déposé la semaine dernière la marque Václav Havel Prague International Airport au registre du commerce. Donner ou pas le nom de l'ancien président défunt à l'aéroport de la capitale, les discussions devraient durer encore un certain temps. Ce jeudi, si on en croit les chiffres annoncés sur le site, ils étaient déjà plus de 70 000 à avoir soutenu le projet visant à rebaptiser l'aéroport de Prague, un projet initié par le réalisateur Fero Fenich sur le site internet dédié à cette pétition. Il explique qu'il veut ainsi rendre hommage à Václav Havel, comme les Américains l'ont fait pour JFK ou les Français pour Charles de Gaulle. Il souligne que l'aéroport porte toujours le nom de la commune de Lusigné, qui évoque pour les Tchèques le nom de l'une des prisons dans laquelle Václav Havel et beaucoup d'autres ont été enfermés sous le communisme. Soutenu par la famille et les proches de l'ancien président, Felofenič en appelle au Parlement et au gouvernement. Tous ceux qui arriveront en République tchèque sauront de quoi il s'agit, de quelles valeurs se réclame ce pays. Ce nom sera dans tous les ordinateurs du monde, dans toutes les billetteries. C'est un symbole indéniable. C'est lui, le premier président tchèque, et c'est un combattant des droits de l'homme mondialement reconnu. Indique Felofenič. Le principal actionnaire de l'aéroport de Prague, c'est le ministère des Finances. L'ordre du jour du Conseil des ministres est établi par le chef du gouvernement, pas par M. Felofenič. Une chose d'une telle importance pour un legs à la génération future mérite plusieurs mois de discussion. Une décision à la va-vite dans les deux semaines, je n'en vois pas le sens. Estime le ministre Miroslav Kalousek, qui indique que ce sera au Conseil des ministres de prendre une telle décision. Plusieurs voix se sont élevées contre cette initiative. L'ancien secrétaire du président Havel estime que ce n'est pas une bonne idée parce qu'il n'aimait pas du tout prendre l'avion, mais pas seulement. Un aéroport est une entreprise purement commerciale et c'est principalement en contradiction avec ce que Havel faisait et représentait. Indique Vladimir Hanzel, l'ancien secrétaire. L'aéroport de Prague, comme la compagnie aérienne tchèque CSA Czech Airlines, doit être privatisé dans les prochaines années. Des sociétés russes seraient déjà sur les rangs. Et l'analyste économique Miroslav Motejlek relève que la situation deviendrait absurde si les Russes prenaient un jour le contrôle d'un aéroport nommé Václav Havel, le plus célèbre des dissidents. On continue avec de la littérature et du cinéma. Lors de la soirée consacrée à Guillaume Apollinaire à l'Institut français et dont nous vous avions déjà parlé sur cette antenne, nous avons eu la chance de voir un film sur le poète nommé « La chanson du mal-aimé », film réalisé en 1980. Une des curiosités de ce film résolument original est qu'il est une coproduction franco-tchécoslovaque, la seule entre 1969 et 1989. Rencontre avec Claude Weiss, le réalisateur, c'est avec Jean-Sébastien Létang.
Ce n'est pas une biographie, vraiment. C'est une fantaisie autour d'Apollinaire qui est incarnée par Rufus, qui ne ressemblait pas physiquement à Apollinaire, mais j'ai choisi Rufus parce que c'était un peu un personnage, un saltimbanque, un petit peu ce côté fil de feriste. Il y a une partie tout à fait imaginaire, où des personnages qui ont existé et des personnages qui sont des personnages littéraires qui se rencontrent. Le nœud étant évidemment Prague et le film étant un petit peu ce que j'ai connu Prague quand j'étais enfant, je connais assez bien, j'ai vu les différentes évolutions de la ville depuis 1946, et puis j'ai retrouvé donc des personnages comme Kafka, bien sûr, le brave soldat Schweig, Apollinaire, qui se retrouvent, bon, qui évidemment ne se sont jamais fréquentés. C'est un film qui est basé beaucoup sur l'imaginaire, sur des rêves un petit peu, qui présente un personnage, je le disais, je revoyais en revoyant hier, effectivement, un côté assez désespéré, un homme qui est joyeux apparemment, et qui quand même a un destin assez tragique, il a un destin tragique parce qu'effectivement il va mourir en 1918 des suites de ses blessures et de la grippe espagnole, mais surtout le mal-aimé, c'est vrai que il aime. Et la plupart des femmes qu'il connaît, qu'il rencontre, dont il est amoureux, l'abandonnent assez rapidement, plus ou moins rapidement, ou alors il vit un amour un peu imaginaire avec Madeleine Pagès, par exemple. Je dirais, j'ai demandé effectivement au public un peu un effort, parce que le film est construit d'une façon un peu cubiste, je dis, c'est un assemblage un assemblage de séquences, de plans qui ne sont pas du tout chronologiques.
Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il s'agit d'une production franco-tchécoslovaque, donc une des seules entre 1969 et 1989. Donc comment ça s'est passé? Comment vous avez arrivé à faire une production avec un État communiste? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire?
Oui, alors ça, c'est une histoire très compliquée et une histoire un peu merveilleuse parce que c'est effectivement la seule coproduction, vraiment coproduction, c'est-à-dire qu'il y a un apport pratiquement 40, officiellement 40% du budget sont apportés par la Tchécoslovaquie, par le Sudo-Barrandov. Et puis, donc c'est vraiment une coproduction entre 69 et 89, il n'y en a pas eu d'autres. C'était très compliqué, les négociations ont duré assez longtemps. Et puis après, ça s'est très bien passé, on a accepté le scénario, tout s'est bien passé, jusqu'à un moment où je suis revenu et où on m'a dit « Oui, mais il faut quand même qu'on discute du scénario, parce que ce scénario, il n'est pas tout à fait pour nous, pas tout à fait correct, en tous les cas, pas tout à fait, il faut l'adapter à la sensibilité du peuple tchèque. » Donc on a convenu que ma version, que ce que j'avais écrit serait la version internationale, et puis qu'il y aurait quelques modifications pour la version tchèque. Je ne sais pas ce qu'est devenu la version tchèque, puisqu'il y a eu deux réalisateurs qui ont travaillé dessus, sur le positif, que l'internégatif qui devait être livré par la France n'a jamais été livré, par le producteur français qui a fait faillite, et on ne sait pas où est cette copie.
D'accord, donc vous avez rencontré beaucoup de problèmes politiques et financiers pendant la réalisation de ce film en 80.
Alors, problème politique, finalement, une fois que le principe a été accepté, ma version était la version internationale, il y avait plus de problème. Et sur le plan français, effectivement, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'ai eu un producteur qui était en fin de parcours, qui a passé l'avance sur recette que j'avais reçue pour payer ses dettes, et quand on est arrivé au tournage de mon film, il n'y avait plus d'argent, donc on a fait j'avais tout le temps des problèmes de production, des problèmes de financement avec une équipe qui à un moment n'était plus payée. On est arrivé au montage, il n'y avait plus d'argent pour faire le montage, enfin ça a été terrible. Et c'est vrai que ce travail perpétuel, moi aussi j'étais en équilibre total dans le fait de pas tomber ni à gauche ni à droite et de continuer d'avancer la production, et à certains moments sur le plan de la production je me suis retrouvé un petit peu seul, donc ça nuit au travail d'un réalisateur bien sûr d'être préoccupé par des problèmes de production pendant le tournage.
C'était Claude Weiss, le réalisateur du film La chanson du mal-aimé. Il était au micro de Jean-Sébastien Létang. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague, un programme que nous poursuivons avec la rubrique hebdomadaire consacrée au tourisme. Et c'est un guide touristique, le dernier guide touristique de l'année 2011, qui nous conduira à Panenský Tinec, l'un des lieux les plus mystiques de la République tchèque. Beaucoup croient que la cathédrale gothique inachevée de Panenský Tinec émane de l'énergie positive. D'autres affirment que ces murs pourraient cacher le tombeau de Sainte Agnès du fait que les sœurs Clarisses, fuyant les Hussites, étaient réfugiées pendant 220 ans dans le couvent adjacent. Cette année 2011 était dédiée à Sainte Agnès de Bohême pour célébrer les 800 ans de sa naissance, et les touristes ont été encore plus nombreux à faire le déplacement à Panenský Tinec, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Prague, pour faire la connaissance de ce site. Jarka Gisubelova s'y est rendue pour inviter au micro l'ancien maire de la commune, Václav Schweitzer.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc.
Parlons de l'énergie positive émise par la vieille pierre de Panenský Tinec. Václav Schweitzer se réfère aux résultats des examens effectués par des experts en énergie et en psychotronique. Examens qui ont établi qu'une zone énergétique du plus haut degré s'y trouvait.
L'église est édifiée sur deux zones géologiques et c'est ainsi que l'énergie s'y croise et s'amplifie.
Prochází, že jo, a druhá je křižuje. Takže vlastně ta energie se jako zdvojnásobuje.
Puisque les zones s'y croisent, on croit que l'effet est double. Il y a un point qui absorbe la mauvaise énergie, l'autre qui nous charge de sel positif. Fiction ou réalité? Avis aux visiteurs de Panenski Tinets. Le fait est que chaque année, plus d'une centaine de couples décident de célébrer leur mariage entre les murs de la cathédrale inachevée, ce qui est relativement beaucoup pour une commune de 400 habitants. Les vestiges des colonnes gothiques sortant du sol avec des fenêtres préservées frappent par leur monumentalité. Le premier parmi les mystères qui plantent sur le lieu, qui a conçu une cathédrale à trois nefs de style gothique flamboyant à Panenski Tinets, Václav Schweitzer.
La famille Gerotin a beaucoup fait pour le développement de Panenski Tinets en 1250. Un château fort a été construit dans le village voisin qui s'appelle aujourd'hui encore Gerotin. Son bâtisseur, Jan Plichta de Gerotin, fut récompensé pour sa participation à une campagne en Palestine. En ce qui concerne la cathédrale et le couvent de Panenski Tinets, c'est son fils Habart de Gerotin, l'auteur des deux construction. Selon une légende, l'épouse de ce dernier, Scholastica de Sternberg, ne pouvait pas avoir d'enfant et elle est allée chercher de l'aide auprès de Saint Agnès à Prague. Après une guérison miraculeuse, elle a accouché de trois filles et de trois garçons. En guise de remerciement, Habart de Gerotin a fait édifier un couvent et l'a dédié à Sainte Agnès de Bohême. Sa première partie a été terminée avant 1280. Il est possible qu'Agnès, morte deux ans plus tard, en 1282, l'ait visitée de son vivant. Tu první část a bylo to do roku 1280
a Neška zemřela 1282 je možný, že tu i byla, že to navštívila. Le fils aîné de Habart Plichta de Gerotin était l'un des meilleurs chevaliers de l'époque au service de Jean de Luxembourg. Il a aussi servi dans les armées du roi Henri VII et après la mort de ce dernier, encore aux couleurs du roi Édouard II d'Angleterre. De retour en Bohême, Plichta a commandé à l'architecte Petr Parleš la construction d'une cathédrale. Suite à un incendie, la construction est restée inachevée. La mention écrite la plus ancienne confirmant l'existence de la commune de Panenski Tinets remonte à l'an 1115. Les origines de la commune sont toutefois plus anciennes, comme le confirme son nom, Tinets, dérivé du mot celte, town, qui veut dire un lieu fortifié. L'adjectif Panenski est quant à lui dérivé des Vierges Clarisses, l'ordre féminin qui suit l'enseignement de Saint François. La cathédrale gothique inachevée n'est pas le seul endroit mystérieux de Panenski Tinets. Le couvent adjacent, construit en partie avant 1280 et élargi en 1540 et qui est aujourd'hui le siège de la municipalité, pourrait lui aussi cacher des mystères. Pour Václav Schweitzer, il est fort probable que la sœur Clarisse, qui s'occupait de la dépouille de Sainte Agnès, l'avait ramenée avec elle à Panenski Tinets lors de la fouille de Prague en 1420. En 2003, Václav Schweitzer a émis l'hypothèse selon laquelle le tombeau présumé de la sainte patronne pourrait se trouver à Panenski Tinets.
Avant les guerres hussites, Prague a été frappée par des crues catastrophiques qui ont inondé le tombeau de Sainte Agnès dans la chapelle du couvent qui porte aujourd'hui son nom. Les Clarisses ont réussi à sauver les reliques. Après les avoir lavées avec du vin de messe, elles les ont déposées de nouveau dans la crypte. Or, après les guerres hussites, le tombeau recherché en rapport avec les tentatives de canoniser Agnès n'a pas été retrouvé. Entre-temps, les sœurs Clarisses sont accueillies au couvent de Panenski Tinets et elles y restent pratiquement jusqu'à l'abolition des couvents par Joseph II.
En 1540, Un couloir souterrain reliait autrefois la cathédrale inachevée et le couvent. Il pourrait cacher un véritable trésor déposé ici avant la fermeture du couvent, y compris des données concernant le tombeau de Sainte Agnès, estime Václav Schweitzer. Tout récemment, il a reçu à Panenský Tinec Leo Vrzal, qui effectue des prospections privées de divers endroits dans l'espoir de retrouver les reliques de Sainte Agnès et qui initie une campagne pour la prospection de la cathédrale.
O nich přesně, nebo přesné položení, pan Leo Tržil.
Monsieur Vrzal a une idée bien précise du lieu où reposent ces reliques. Comme vous le savez, c'est lui qui a effectué en 2010 une prospection au géoradar dans l'église Saint-Gall à Prague. Peu après, il est venu à Panenský Tinec et après une première prospection sur le terrain, il les a trouvées ici. Un reportage télévisé diffusé par la chaîne Prima a montré les images saisies par une sonde munie d'une caméra. Coupées en couches et en tranches détaillées, ces images ont révélé un espace de 2 mètres sur 2 en forme de tombeau, protégé en haut par une sorte de toit et abritant au milieu quelque chose dont on ne doute pas qu'il s'agit de l'objet recherché. On en est sûr.
Moins optimistes, des historiens ne veulent pas pour l'instant de procéder à la prospection de la cathédrale pour ne pas endommager le site. Il faudra donc encore du temps pour avoir la confirmation de l'hypothèse avancée. Rappelons encore que la prospection au géoradar dans l'église Saint-Gall a démenti la théorie selon laquelle cette église pourrait cacher le tombeau de Sainte Agnès. Mais revenons encore à l'histoire de Panenský Tinec.
Plichta de Gerotín trouve la mort dans la bataille de Mühldorf en 1322 et le roi Jean de Luxembourg en personne vient l'enterrer ici. Là où vous voyez un arbre se trouvait autrefois la chapelle de la Sainte Trinité, c'est dans la crypte de cette chapelle que Jean de Luxembourg a enterré son meilleur combattant.
Après la fermeture du couvent en 1782, le domaine est racheté par Jan Tuscany. La famille Tuscany séjourne dans son château édifié dans le jardin de l'ancien couvent et elle fonde un cimetière où ses membres sont enterrés. Plus tard, le château familial des Tuscany est acquis par le médecin personnel du président Masaryk, Adolf Meixner, qui en fait un établissement thermal, ainsi que le raconte Václav Schweitzer.
V tom sklepení je právě studánka nebo studna, kde údajně ta voda je nabitá.
Une source dans les caves du château jaillit au travers de la zone d'énergie positive et on a voulu profiter des effets de cette eau à des fins curatives.
Takže to asi chtěli využívat k léčení, k léčivým účinkům.
Le couvent ainsi que la cathédrale gothique inachevée sont classés monument national. Parmi d'autres personnalités marquantes de Panenský Tinec enterrées au cimetière local, Benedikt Rösl, explorateur, inventeur et naturaliste, qui a une statue sur la place Charles à Prague et qui s'est fait connaître comme chasseur d'orchidées. Il y a ensuite le père Joseph Commercy, qui a beaucoup fait pour le développement culturel de la commune en fondant une bibliothèque et de nombreuses associations. En 2010, s'était enterré ici le champion du monde de tir skeet, Bronislav Bechinski, originaire de Panenský Tinec, mort dans un accident de route à l'âge de 49 ans. Les amateurs de musique connaissent sans doute l'Open Air Festival, un festival multigenre avec participation de musiciens venant du monde entier qui se déroule au mois d'août sur l'aérodrome de Panenský Tinec.
La balade touristique de cette semaine à Panenský Tinec vous était proposée par Jaroslava Gisubelova. C'est déjà bientôt la fin de notre programme en français. Retrouvez-nous sur le site internet de Radio Prague, www.radio.cz, pour nous écrire français@radio.cz, français sans cdi@radio.cz. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt.